Chapitre 11. Chrétien trouve dans Fidèle un excellent compagnon de voyage. La peine avec laquelle celui-ci se décide à voyager avec Chrétien, et le refus surtout qu'il fait de l'attendre, montre quelle prudence les gens pieux doivent apporter dans le choix de leurs amis. Ils finissent par se réunir et ont une conversation très édifiante. En continuant sa route, Chrétien parvint au pied d'un petit monticule qui avait été élevé dans cet endroit pour que les pèlerins pussent de là découvrir le pays qui était devant eux. Il monta sur cette hauteur et aperçut Fidèle qui le précédait de quelques pas. « Arrêtez !» lui cria-t-il, « et nous ferons route ensemble. » Et comme Fidèle regardait en arrière, Chrétien lui cria de nouveau « Arrêtez ! Arrêtez ! Attendez-moi !» À quoi Fidèle répondit « Impossible, il y va de ma vie. Le vengeur du sang est derrière moi. » Chrétien fut un peu blessé de cette réponse, et, rassemblant toutes ses forces, il courut après Fidèle, qu'il devança bientôt. En sorte que le dernier fut le premier. Mais comme il souriait d'un air de triomphe de ce qu'il avait ainsi pris les devants, le pied lui glissa, il tomba, et ne put se relever que lorsque Fidèle fut venu à son secours. Je les vis ensuite faire route ensemble de bonne amitié et s'entretenir l'un l'autre de tout ce qui leur était arrivé pendant leur pèlerinage. Chrétien commença la conversation en ces termes. « Mon bien-aimé frère, je suis charmé de vous avoir rattrapé et de ce que, par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant tellement d'accord que nous pouvons cheminer ensemble dans ce joli sentier. » Fidèle. « J'avais espéré, mon cher ami, que je jouirais de votre société dès le commencement de mon voyage, mais vous aviez pris les devants en sorte que j'ai été forcé de marcher seul jusqu'à présent. » Chrétien. « Combien de temps êtes-vous resté dans la ville de perdition après moi et avant d'entreprendre votre pèlerinage ? » Fidèle. « Jusqu'au moment où il m'a été impossible d'y rester plus longtemps. Bientôt après votre départ, le bruit a couru que, dans peu, notre ville serait entièrement consumée par le feu du ciel. » Chrétien. « Comment ? Sont-ce les gens de la ville qui vous l'ont dit ? » Fidèle. « Oui. Pendant quelque temps, je n'ai pas entendu parler d'autre chose. » Chrétien. « En vérité, et n'y a-t-il que vous qui ayez voulu sortir de la ville et fuir le danger ? » Fidèle. « Quoiqu'ils s'entretinssent beaucoup du péril qui les menaçait, je doute fort, à vrai dire, qu'ils y crussent fermement. J'ai entendu plusieurs de nos compatriotes qui, lorsqu'ils parlaient à cœur ouvert, se moquaient de vous et traitaient votre voyage de folie. Mais pour moi, je croyais et je crois encore que notre ville finira par être brûlée, et c'est pourquoi je me suis décidé à en sortir. » Chrétien. « Avez-vous su quelque chose de notre voisin Facile ? » Fidèle. « Oui, on m'a dit qu'il vous avait suivi jusqu'au bourbier du découragement, et qu'il y était tombé. Mais il n'a pas voulu en convenir. Cependant, je n'en doute pas, car il était tout couvert de boue. » Chrétien. « Et que lui disaient ses voisins ? » Fidèle. « Depuis son retour, il a été la risée de tout le monde. On se moque de lui. » On lui témoigne du mépris, et plusieurs refusent même de lui donner de l'ouvrage. Il est maintenant 10 fois plus malheureux qu'il n'était avant d'avoir quitté la ville. » Chrétien. « Mais pourquoi nos compatriotes sont-ils si acharnés contre lui, puisque le parti qu'il avait pris et auquel il a renoncé leur paraît insensé ? » Fidèle. « Ils disent qu'il mériterait d'être pendu, que c'est une girouette, qu'il s'est conduit en traître. » Je crois que Dieu a excité même les impies à le mépriser et à le montrer au doigt, parce qu'il a abandonné les voies du Seigneur. » Chrétien. « N'avez-vous point eu de conversation avec lui avant votre départ ? » Fidèle. « Je l'ai rencontré une fois dans la rue, mais dès qu'il me vit, il passa de l'autre côté, comme quelqu'un qui aurait honte de sa conduite. C'est pourquoi je ne lui ai pas parlé. » Chrétien. « Au commencement de mon voyage, j'avais bonne opinion de cet homme. Mais maintenant je crains qu'il ne périsse dans l'embrasement de la ville. Car il a fait ce que dit le proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée de nouveau dans le bourbier. » Mais, voisin fidèle, ajouta Chrétien, ne parlons plus de cet homme. Entretenons-nous plutôt de ce qui nous concerne directement. Contez-moi ce qui vous est arrivé pendant votre voyage. Je pense que vous avez eu des aventures surprenantes, car il n'est guère possible qu'il en soit autrement. Fidèle. J'ai passé sans accident le bourbier du découragement, dans lequel je m'aperçois que vous êtes tombé, et je suis arrivé sain et sauf à la porte étroite. Seulement, j'ai rencontré une personne qui se nommait Volupté, et qui aurait pu me faire bien du mal. Chrétien. Vous êtes bien heureux de ne vous être pas laissé prendre dans les filets qu'elle vous a tendus. Joseph fut sur le point d'y être enlacé. Cependant, il y échappa comme vous, mais il y courut un grand danger. Mais que vous a donc dit Volupté? Fidèle, il faudrait que vous l'eussiez entendu vous-même, pour vous figurer combien son langage est flatteur. Elle me pressa beaucoup de ne pas me séparer d'elle, et me promit toutes sortes de plaisirs. Chrétien. Oui, mais assurément elle ne vous promit pas la satisfaction que donne une bonne conscience. Fidèle. Vous sentez bien que je parle des plaisirs charnels. Chrétien. Je bénis Dieu de ce que vous avez su résister. Celui que l'Éternel a en détestation y tombera. Fidèle. Cela est vrai, mais je n'ose me flatter de lui avoir entièrement échappé. Chrétien. Comment? Vous n'avez pas accédé à ses désirs. Fidèle. Non, sans doute. Je me suis souvenu d'avoir lu autrefois que ses pieds conduisent à la mort. C'est pourquoi j'ai fermé les yeux, afin de n'être point séduit par la magie de ses regards. Alors, elle s'est moquée de moi, et j'ai continué ma route. Chrétien. Avez-vous été exposé à d'autres attaques pendant votre voyage? Fidèle. Arrivé au pied de la colline des difficultés, je rencontrai un vieillard qui me demanda qui j'étais et où j'allais. Je lui répondis que j'étais un pèlerin et que je me rendais à la cité céleste. Alors il me dit, « Vous paraissez un honnête homme. Voulez-vous entrer à mon service et rester avec moi ?» Je lui demandai comment il s'appelait et où il demeurait. Il me répondit qu'il se nommait le premier Adam et qu'il demeurait dans la ville de Séduction. Je lui demandai ensuite quel était son métier et quel salaire il me donnerait si je restais avec lui. Il me dit que son métier était de faire des délices, et que pour ma récompense, il me ferait son héritier, et il ajouta qu'il vivait au milieu de toutes les jouissances de ce monde. Je lui demandai encore combien il avait d'enfants. Il me dit qu'il n'en avait que trois, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et qu'il me donnerait, si je le voulais, ses filles en mariage. Je lui demandai enfin combien de temps il désirerait que je restasse avec lui. À quoi il me répondit, « Aussi longtemps que je vivrai. » Chrétien. Et quel fut enfin le résultat de toute cette conversation? Fidèle. Au premier moment, j'éprouvai quelque désir de l'accompagner, car son langage était très séduisant. Mais tout en lui parlant, j'aperçus ses paroles écrites sur son front, dépouiller le vieil homme avec ses œuvres. Chrétien. Eh bien. Fidèle, je demeurai convaincu que quelque flatteuses que fussent ses paroles et ses promesses, quand une fois il m'aurait emmené chez lui, il me vendrait comme esclave. Je lui dis donc que tous ses discours étaient inutiles, parce que j'étais décidé à ne pas franchir le seuil de sa porte. Alors il me dit des injures, et me menaça de me faire suivre par quelqu'un qui ne cesserait de me tourmenter pendant tout mon voyage. Je voulus poursuivre ma route. Mais au moment où je lui tournai le dos pour m'éloigner, il mit la main sur moi et me pinça si violemment que je crus qu'il avait emporté un morceau de ma peau. « Misérable que je suis » m'écriai-je, et je continuai à gravir la colline. Quand j'eus fait à peu près la moitié du chemin, je regardai en arrière et vis quelqu'un qui me poursuivait avec la vitesse du vent. Il m'atteignit précisément à l'endroit où se trouve le berceau. Chrétien. C'est à ce même endroit que je m'assis pour me reposer, et qu'accablé par le sommeil, je perdis mon rouleau de papier. Fidèle. Mon cher frère, écoutez-moi jusqu'au bout. Cet homme ne m'eut pas plus tôt atteint qu'il me frappa si violemment que je tombai par terre, et restai comme mort. Quand je fus revenu à moi, je lui demandai pourquoi il me traitait de cette manière. C'est, me dit-il, à cause de ton secret penchant pour le premier Adam. Et là-dessus, il me frappa de nouveau avec force sur la poitrine et me renversa en arrière. Je retombai à ses pieds sans connaissance. et dès que j'eus repris un peu de force, je demandai grâce. Mais il me répondit, « Je ne peux pas faire grâce », et il me terrassa encore une fois. Il m'aurait sans doute tué si quelqu'un qui passait par là ne lui eût ordonné de me laisser tranquille. Chrétien, « Avez-vous reconnu celui qui est venu à votre secours ?» Fidèle, « Non pas d'abord, mais au moment où il a passé devant moi, j'ai remarqué que mon protecteur avait les mains et le côté percés, et j'en ai conclu que c'était notre Seigneur. Après cette aventure, j'ai continué à monter la colline. Chrétien, l'homme qui vous a poursuivi s'appelle Moïse. Il n'épargne personne, et il n'est pas capable de faire grâce à ceux qui transgressent sa loi. Fidèle, je le connais bien, car je l'avais déjà rencontré auparavant. C'est lui qui est venu me trouver alors que je demeurais paisiblement dans ma ville natale et qui m'a dit que si j'y restais, je serais consumé dans ma demeure. Chrétien, mais n'avez-vous pas vu la maison qui est sur la colline, du côté où vous avez rencontré Moïse ? Fidèle, je l'ai bien vu, ainsi que les lions. Je crois qu'ils étaient endormis, car il était environ midi. Comme la journée n'était pas encore avancée, j'ai traversé la colline de suite, sans m'arrêter chez le portier. Chrétien, le portier m'a bien dit qu'il vous avait vu passer, mais je regrette que vous ne soyez pas entré dans la maison. On vous y aurait montré une foule de choses curieuses, dont il vous aurait été presque impossible de perdre jamais le souvenir. Mais dites-moi, je vous prie, si vous n'avez rencontré personne dans la vallée de l'humiliation. Fidèle, pardonnez-moi, j'y ai rencontré un homme, appelé Mécontent, qui voulait absolument me persuader de retourner en arrière avec lui, sous prétexte qu'il n'y avait point de gloire à acquérir dans cette vallée. Il a ajouté que, si je persistais, je désobligerais beaucoup tous mes amis, et surtout orgueilleux, arrogants, présomptueux, vaine gloire, qui, disait-il, seraient très irrités contre moi si j'étais assez imbécile pour traverser cette vallée. Chrétien, et que lui avez-vous répondu ? Fidèle, je lui ai dit que quoique les gens dont il parlait eussent le droit de me regarder comme un de leurs parents, puisqu'en effet ils sont mes parents selon la chair, ils avaient cependant entièrement renoncé à moi depuis que j'avais commencé mon pèlerinage, que moi, de mon côté, j'avais rompu toute relation avec eux, et qu'en conséquence, je ne faisais pas plus de cas d'eux maintenant que si nous n'avions jamais été parents. J'ai ajouté que ce qu'il disait de la vallée était entièrement faux, car l'humilité va devant la gloire et la fierté d'esprit devant la ruine. C'est pourquoi, lui dis-je encore, j'aime mieux aller à travers cette vallée à la recherche du véritable honneur, de celui qu'estiment les sages, que de rechercher celui que toi, Mécontent, tu regardes comme le plus désirable. Chrétien, n'avez-vous rencontré personne d'autre dans la vallée de l'humiliation ? Fidèle, j'y ai encore rencontré honteux. Mais de toutes les personnes que j'ai trouvées sur mon chemin pendant mon voyage, il n'en est point qui porte un nom qui lui convienne moins. Les autres souffraient au moins la contradiction, et je pouvais leur faire des observations. Mais quant à honteux, il a tant d'effronterie que rien ne saurait lui fermer la bouche. Chrétien, qu'est-ce donc qu'il vous a dit ? Fidèle, il m'a fait force objection contre la religion. Il m'a dit qu'il était déshonorant et puéril de s'en occuper autant, que rien n'était plus au-dessous de la dignité de l'homme que de se faire tant de scrupules de conscience, qu'on se rendait la fable de tout le monde, qu'on se couvrait de ridicule en s'astreignant à veiller ainsi sur ses paroles et sur ses actions, en se privant de la noble liberté que s'accordent à cet égard les beaux esprits du siècle. Il m'a aussi fait observer qu'il n'y avait jamais eu qu'un bien petit nombre de riches, de puissants et de sages qui eussent partagé mes sentiments, qu'aucun d'eux n'était devenu chrétien avant d'avoir d'abord perdu la raison, qu'il fallait être fou pour consentir à tout sacrifier pour courir après un bien imaginaire. Enfin, que ce pèlerinage n'avait jamais été entrepris que par des gens de rien, qui n'avaient aucune idée des sciences humaines. Il m'a parlé longtemps sur ce ton et m'a dit encore une foule de choses, entre autres, que c'était une pitié de voir les gens gémir et se désoler en entendant un sermon, puis rentrer chez eux pour soupirer et pleurer encore, que c'était une honte aussi de demander pardon à son prochain pour les plus légères offenses, ou de restituer un bien mal acquis, que les gens religieux avaient l'habitude de fuir les grands à cause de quelques légères faiblesses, c'est ainsi qu'il appelait leur vice, et qu'ils se rapprochaient des gens du commun parce qu'ils trouvaient en eux une conformité de principes religieux. Et, ajouta-t-il, se peut-il rien de plus honteux ? Chrétien, qu'avez-vous répondu à tout cela ? Fidèle, au premier moment, je ne savais que dire. Il me poussa tellement à bout que la rougeur me monta au visage et que je me sentis presque battu par ce honteux. Mais je me rappelai bientôt que tout ce qui est grand devant les hommes est en abomination devant Dieu. Puis je me dis à moi-même, ce honteux ne me parle que de ce que disent les hommes. Il ne me parle pas de ce que dit Dieu, ni de sa parole. Je me souvins aussi qu'au jour du jugement, la sagesse et la loi du Très-Haut, et non les opinions des beaux esprits du siècle, décideront de notre salut ou de notre perte. C'est pourquoi, pensais-je alors, je m'en tiendrai à ce que Dieu dit, quand le monde entier dirait le contraire. Puis donc, que Dieu apprécie par-dessus tout la piété, puisqu'il approuve la délicatesse de conscience. Puisque ceux qui deviennent fous pour le royaume de Dieu sont les véritables sages, et qu'un pauvre qui aime Christ est bien plus riche qu'un roi qui ne l'aime pas. Arrière de moi, honteux, m'écriai-je, tu es l'ennemi de mon salut. Si je t'écoutais de préférence à mon souverain Seigneur, comment pourrais-je lever les yeux sur lui à sa venue? Si j'avais honte ici-bas de marcher dans ses voies et de m'associer à ses rachetés, comment pourrais-je espérer sa bénédiction? Mais jamais il n'y eut de plus effronté coquin que ce honteux. J'ai eu toutes les peines du monde à me débarrasser de lui. Il s'obstina à me poursuivre, me soufflant sans cesse à l'oreille une chose ou une autre sur les faiblesses des gens religieux. À la fin, je lui dis que toutes ses tentatives étaient inutiles, qu'il perdait son temps à me parler, puisque c'était précisément dans les choses qu'il méprisait que je mettais toute ma gloire, et ainsi je parvins à chasser cet importun. Chrétien, je suis ravi, mon frère, que vous ayez si courageusement résisté à ce vaurien. Assurément, le nom qu'il porte lui va bien mal. Il s'appelle honteux, et il est effronté au point de nous courir après dans les rues et de chercher à nous couvrir de confusion devant tout le monde, en nous faisant rougir de ce qui est bien. S'il n'était pas impudent au plus haut degré, il n'oserait pas agir comme il le fait. Mais ne nous lassons pas de lui résister, car malgré toutes ses bravades, il n'y a que les insensés qui se laissent conduire par lui. Les sages hériteront la gloire, dit Salomon, mais les insensés élèvent leur ignominie. Fidèle, je crois que nous ne pouvons vaincre la honte qu'en appelant à notre secours celui qui veut que nous prenions courageusement sur la terre la défense de la vérité. Chrétien, vous avez raison. Est-ce là tout ce que vous avez vu dans la vallée? Fidèle, oui. Pendant tout le reste de ma route, le soleil n'a cessé de luire, et il m'a éclairé aussi pendant que je traversais la vallée de l'ombre de la mort. Chrétien, vous avez été bien plus heureux que moi. J'étais à peine entré dans la vallée de l'humiliation quand j'ai eu à soutenir un long et terrible combat contre Apollyon, mon ennemi mortel. J'ai cru qu'il allait me tuer, lorsqu'après m'avoir terrassé, il me tint serré sous lui comme pour m'écraser. En tombant, j'avais laissé échapper mon épée, et déjà il se vantait d'une victoire certaine lorsque je criai à Dieu qui m'écouta et me délivra du péril. J'entrai ensuite dans la vallée de l'ombre de la mort et en traversai une grande partie entourée de profondes ténèbres. 20 fois je crus que j'allais y périr. Mais enfin l'aurore parut, le soleil se leva, et je fis le reste de ma route beaucoup plus facilement et plus agréablement. Chapitre 12. Chrétien et fidèle rencontrent Beauparleur, caractère d'un homme qui n'a que les apparences de la piété. Bien des gens s'imaginent être de vrais chrétiens qui n'ont que la connaissance la plus superficielle de l'Évangile. Je vis ensuite que, chemin faisant, Chrétien et fidèle aperçurent un homme nommé Beauparleur qui marchait à quelque distance devant eux. Il était de grande taille et avait meilleure façon de loin que de près. Fidèle lui adressa la parole en ces termes. « Mon ami, où allez-vous? Vous rendez-vous aussi à la cité céleste ?» Beauparleur. « Oui, c'est là que je vais. » Fidèle. « J'en suis bien aise. J'espère que nous ferons route ensemble. » Beauparleur. « Je ne demande pas mieux. » Fidèle. « Joignez-vous donc à nous, et nous nous entretiendrons de choses édifiantes. Beauparleur, c'est toujours un plaisir pour moi de parler de bonnes choses avec qui que ce soit, et je suis ravi de trouver en vous des personnes qui éprouvent le même besoin. Car, pour dire la vérité, il y a bien peu de gens qui aiment à passer leur temps en voyage de cette manière. La plupart des hommes préfèrent les conversations frivoles. C'est ce que j'ai souvent remarqué avec peine. Fidèle, c'est affligeant en effet, car qu'y a-t-il de plus digne des entretiens des mortels sur la terre que les choses de Dieu? Beauparleur, vous me plaisez infiniment. Ce que vous dites est plein de sens. Permettez-moi d'ajouter que ce genre de conversation est aussi le plus agréable et le plus utile de tous. Agréable, s'entend, pour ceux qui ont quelque amour du merveilleux. Par exemple, si un homme aime à parler d'histoires ou des mystères de la nature, ou de miracles et de prodiges, où peut-il puiser des sujets de conversation aussi intéressants que dans les admirables récits et les touchantes descriptions que renferme l'Écriture sainte? Fidèle, nulle part, assurément. Mais notre but essentiel dans nos entretiens doit être notre édification. Beauparleur, vous avez raison. Rien de plus édifiant que de parler de religion, car c'est le vrai moyen d'acquérir beaucoup de connaissances, entre autres celles de la vanité des choses terrestres et du prix des choses célestes. C'est ainsi qu'on vient à comprendre la nécessité de la nouvelle naissance, l'insuffisance des œuvres et le besoin qu'on a de la justice du Christ. C'est ainsi qu'on apprend ce que c'est que se repentir, croire, prier, souffrir, et qu'on parvient à se faire une idée des grandes promesses et des précieuses consolations de l'Évangile. C'est ainsi enfin qu'on peut apprendre à réfuter les opinions fausses, à défendre la vérité et à instruire les ignorants. Fidèle, tout ce que vous dites est vrai, et je suis charmé de vous entendre parler ainsi. Beauparleur, hélas, c'est faute de s'occuper de ces choses qu'il y a si peu de personnes qui comprennent la nécessité de la foi et de l'œuvre de la grâce dans leur âme pour parvenir à la vie éternelle. La plupart se reposent aveuglément sur les œuvres de la loi par lesquelles il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Fidèle, mais avec votre permission, la vraie lumière spirituelle est un don de Dieu, et nul ne peut l'acquérir par lui-même ou simplement en parlant de religion avec les autres. Beauparleur, je sais tout cela, car un homme ne peut rien recevoir qui ne lui soit donné d'en haut. Tout est par grâce et rien par les œuvres. Je pourrais vous citer 100 passages à l'appui de cette assertion. Fidèle, eh bien donc, quel sera maintenant le sujet de notre conversation? Beauparleur, celui que vous voudrez. Je vous parlerai des choses célestes ou des choses terrestres, des choses qui appartiennent à la loi ou des choses qui appartiennent à l'Évangile, des choses sacrées ou des choses profanes, des choses passées ou des choses à venir, des choses essentielles ou des choses accessoires, pourvu que nous nous entretenions d'une manière qui nous soit utile. Alors, fidèle, saisi d'admiration et de surprise, s'approcha le chrétien qui, pendant tout ce temps, avait continué sa route seul, et lui dit à voix basse, « Quel compagnon de voyage nous avons trouvé là! Cet homme fera assurément un excellent pèlerin. » Chrétien sourit modestement. « Cet homme, dit-il à Fidèle, en faveur duquel vous êtes si prévenu, en trompera bien d'autres avec ses beaux discours. Il faut le connaître pour ne pas se méprendre sur son compte. » Fidèle, « Le connaissez-vous? » Chrétien, « Si je le connais. Oui, vraiment, et bien mieux qu'il ne se connaît lui-même. » Fidèle, quelle espèce d'homme est-ce, je vous prie? Chrétien, il se nomme Beauparleur, et il est né dans notre ville. Je suis surpris que vous ne le connaissiez pas. Il est vrai que la ville est grande. Fidèle, de qui est-il le fils, et dans quelle partie de la ville demeure-t-il? Chrétien, son père s'appelle Beaudiseur, et demeure dans la rue du Babil. Quant à lui, il est connu partout sous le nom de Beauparleur. Il a la langue bien pendue, et c'est un triste personnage. Fidèle, il paraît cependant fort honnête homme. Chrétien, oui, quand on ne le connaît que superficiellement, et qu'on ne le voit que de loin. Mais on change d'opinion sur son compte lorsqu'on fait plus ample connaissance avec lui. Il ressemble à ces tableaux qui font un bel effet à une certaine distance, mais qui sont fort laids quand on les examine de près. Fidèle, Je ne puis m'empêcher de croire que vous badinez, car je vous ai vu sourire. Chrétien, il est vrai que j'ai souri, mais Dieu me garde de badiner sur un sujet aussi grave, ou d'accuser faussement qui que ce soit. Mais pour vous le faire connaître plus à fond, je vous dirai que cet homme s'accommode de toutes les compagnies et de toutes les conversations, quelles qu'elles soient. Il parle au cabaret comme il vient de vous parler. Plus il est pris de vin, plus il est éloquent sur ses matières. La crainte de Dieu n'est pas dans son cœur. On n'en voit aucune trace, ni dans sa maison, ni dans sa conduite. Toute sa religion est sur ses lèvres. En un mot, c'est un beau parleur et rien de plus. Fidèle. En vérité, alors je me suis bien trompé sur le compte de cet homme. Chrétien. Assurément. Souvenez-vous du proverbe. Ils disent et ne font pas. Mais le royaume de Dieu ne consiste point en paroles, mais en efficaces. Il parle beaucoup de la prière, de la repentance, de la foi et de la nouvelle naissance, mais il se borne à en parler. J'ai passé quelque temps dans sa famille, et j'ai été à même de l'observer chez lui et dans le monde, et je sais que ce que je vous dis de lui est vrai. Il n'y a pas plus de piété dans sa demeure que de saveur dans le blanc d'un œuf. On n'y entend jamais le son de la prière. On n'y voit aucune trace de repentance. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de lui par une foule de personnes. Et grâce à lui, la religion est en déshonneur dans tout son voisinage. Les gens du peuple disent « c'est un saint dans le monde et un démon dans sa famille ». Sa femme et ses enfants savent trop bien ce qui en est. Il est si maussade, si bourru, si difficile à contenter, que ses domestiques ne savent comment s'y prendre pour le satisfaire, et osent à peine lui parler. Les marchands qui le servent disent qu'on aurait meilleur marché d'un Turc que de lui, car il fait toujours son possible pour tromper et friponner ceux qui ont affaire à lui. Enfin, il instruit ses enfants à marcher sur ses traces, et s'il découvre chez l'un d'eux quelques sots scrupules, c'est ainsi qu'il nomme toute apparence de délicatesse et de conscience, il les appelle des nigauds et des imbéciles. Il ne peut ni leur donner de l'occupation lui-même, ni le recommander à d'autres. Quant à moi, je crois que par son indigne conduite, il a été pour beaucoup de gens une pierre d'achoppement et de scandale, et que si Dieu n'y met obstacle, il sera encore cause de la perte d'un grand nombre d'âmes. Fidèle, vous m'étonnez, mon frère, mais je ne puis me refuser à croire ce que vous dites, car il m'est impossible de supposer que vous vous exprimiez ainsi sur son compte par aucun sentiment de malveillance. Chrétien, si je ne l'avais pas connu depuis longtemps, j'aurais pu me former de lui la même opinion que vous. Bien plus, si ce que je vous dis de lui m'avait été rapporté par des ennemis de la religion, j'aurais traité ses propos de médisance, car je sais que c'est souvent le sort des hommes de bien d'être calomniés par les méchants. Mais j'ai été moi-même témoin de toutes ces choses, et de bien d'autres encore, non moins condamnables. Tous les gens vraiment pieux ont honte de lui. Ils ne peuvent le regarder ni comme leur ami, ni comme leur frère. Loin de là, son nom seul fait rougir tous ceux d'entre eux qui le connaissent pour ce qu'il est. Fidèle, je vois que parler et agir sont deux choses très différentes, et à l'avenir j'aurai soin de faire cette distinction. Chrétien, oui, vraiment, ce sont deux choses aussi différentes l'une de l'autre que l'âme est différente du corps. Car comme un corps sans âme est mort, les beaux discours qui ne sont pas accompagnés d'une conduite qui y réponde sont morts aussi. La pratique est l'âme de la religion. La religion pure et sans tache envers notre Dieu et notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et de se conserver pur des souillures de ce monde. Beaux parleurs ne se doutent pas de cela. Ils croient qu'il suffit d'écouter et de parler pour être bon chrétien, et ainsi il se séduit lui-même. Écouter la parole, ce n'est que recevoir la semence, et de simples discours ne suffisent pas pour prouver que nous portions des fruits dans notre cœur et dans notre vie. Cependant, n'en doutons pas, c'est par les fruits qu'ils auront portés que les hommes seront jugés au grand jour des rétributions. Il ne leur sera pas dit alors « avez-vous cru ?» Mais votre religion a-t-elle consisté en action ou en parole seulement? Et ils seront jugés en conséquence. La fin du monde est comparée au temps de la moisson, et vous savez que lors de la moisson, ce n'est qu'aux fruits que l'on regarde. Non pas sans doute qu'aucune œuvre qui n'est pas faite par un principe de foi puisse avoir du prix. Ce que j'en dis est seulement pour vous montrer combien sera vaine au jour du jugement une piété semblable à celle du beau parleur. Fidèle. Ceci me rappelle la description que fait Moïse de la bête qui est nette. C'est celle qui rumine et qui a l'ongle divisé. Non pas celle qui rumine seulement, ou qui a seulement l'ongle divisé. Le lièvre rumine bien, et cependant il est souillé, parce qu'il n'a pas l'ongle divisé. Il en est de même de beaux parleurs. Il rumine, il est avide de connaissance. Il dévore la parole, mais il n'a pas l'ongle divisé. Il ne se détourne pas de la voie des pécheurs. Comme le lièvre, il est souillé, car il a les pieds semblables à ceux des chiens et des ours. Chrétien. Oui, et convenez vous-même que saint Paul dit, précisément à propos de ces beaux parleurs, qu'ils sont comme l'airain qui résonne ou la cymbale qui retentit. Ou, ainsi qu'il le dit ailleurs, comme des choses inanimées qui rendent un son, c'est-à-dire des hommes sans vie, sans la vraie foi, sans la grâce de l'Évangile, des hommes par conséquent qui n'entreront jamais dans le royaume des cieux, qui ne seront jamais héritiers de la vie éternelle, bien qu'ils parlent comme s'ils avaient la langue ou la voix d'un ange. Fidèle, quelque agréable que m'ait paru d'abord la société de beaux parleurs, je vous avoue que j'en ai maintenant bien assez. Comment ferons-nous pour nous en débarrasser? Chrétien, suivez le conseil que je vais vous donner, et je vous réponds qu'à moins qu'il ne plaise à Dieu de toucher son cœur et de le convertir, il sera bientôt aussi las de votre société que vous l'êtes de la sienne. Fidèle, que voulez-vous que je fasse? Chrétien, approchez-vous de lui et amenez la conversation sur l'efficace de la véritable piété. Puis, quand il aura donné son assentiment à tout ce que vous direz, ce qu'il ne manquera pas de faire, demandez-lui sans détour s'il éprouve dans son cœur cette efficace de la piété et s'il la manifeste dans sa vie. Fidèle donc retourna auprès de Beauparleur et lui dit « Eh bien, comment vous trouvez-vous maintenant ?» Beauparleur, fort bien, je vous remercie. Nous avons perdu bien du temps que nous aurions pu employer à causer ensemble. Fidèle, rien ne nous empêche de causer maintenant si vous le trouvez bon. Et puisque vous m'avez donné le choix du sujet de notre conversation, je voudrais traiter avec vous cette question. Comment la grâce salutaire de Dieu se manifeste-t-elle quand elle habite dans le cœur? Beauparleur, je vois que vous avez envie de discourir sur la puissance de la vérité. C'est un sujet très intéressant, et je suis prêt à vous répondre. Je le ferai en peu de mots. En premier lieu, quand la grâce de Dieu habite dans le cœur, elle nous fait crier bien haut contre le péché. En second lieu, fidèle, un moment s'il vous plaît, examinons un point après l'autre. Vous auriez plutôt dû dire, ce me semble, que cette grâce se manifeste en excitant dans l'âme la haine du péché. Beauparleur, mais quelle différence y a-t-il, je vous prie, entre crier contre le péché et le détester? Fidèle, oh, une très grande, vraiment. Un homme peut déclamer contre le péché par politique, mais il ne peut le détester que lorsqu'il a acquis une sainte conviction du mal du péché. J'ai entendu bien des prédicateurs qui, en chair, criaient contre le péché, et qui cependant le laissaient régner très paisiblement dans leur cœur, dans leur conduite et dans leur famille. Quelques personnes crient contre le péché, comme ces mères qui crient contre un enfant qu'elles tiennent sur leurs genoux et qu'elles couvrent de baisers et de caresses, tout en l'appelant vaurien et méchant. Beauparleur, vous embarrassez la question. Fidèle, non pas. Je tiens seulement à montrer les choses comme elles sont. Mais quelle est la seconde marque à laquelle vous pensez qu'on peut reconnaître l'œuvre de la grâce dans le cœur? Beauparleur, une profonde connaissance des mystères de l'Évangile. Fidèle, vous auriez dû commencer par là, mais n'importe, c'est encore là un signe trompeur. Car on peut avoir une connaissance très profonde des mystères de l'Évangile sans que la grâce agisse véritablement dans l'âme. Un homme peut connaître tous les mystères et cependant n'être rien. Or, un tel homme n'est assurément pas un enfant de Dieu. Si vous savez ces choses, disait notre Seigneur à ses disciples, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Il n'appuie pas ici sur la nécessité de les connaître, mais sur la nécessité de les pratiquer. Car il arrive quelquefois qu'on sait les choses sans les mettre en pratique. Un homme peut avoir la science d'un ange, et cependant n'être pas chrétien. Ainsi donc, ce que vous avancez est faux. Le simple savoir suffit à ceux qui aiment à parler et à se vanter. Mais pour plaire à Dieu, il faut agir. Ce n'est pas que le cœur puisse être bien disposé sans connaissance, mais il y a deux sortes de connaissances. L'une qui s'arrête à de vaines spéculations, l'autre qui est accompagnée de grâce, de foi et d'amour, et qui porte celui qui la possède à faire cordialement la volonté de Dieu. La première de ces connaissances suffit aux diseurs de belles paroles, mais la dernière peut seule satisfaire le vrai chrétien. Donne-moi de l'intelligence, je garderai ta loi, et je l'observerai de tout mon cœur. Beau parleur, vous embarrassez encore la question, ces choses-là ne tentent pas à l'édification. Fidèle, nommez-moi donc quelque autre signe auquel on puisse reconnaître l'œuvre de la grâce. Beau parleur, non, car je vois bien que nous ne pouvons pas nous entendre. Fidèle, eh bien, si vous ne voulez pas me faire part de vos idées à cet égard, voulez-vous me permettre de vous communiquer les miennes? Beau parleur, comme il vous plaira. Fidèle, l'œuvre de la grâce dans l'âme se manifeste, soit à celui en qui cette œuvre s'opère, soit aux autres hommes qui ont l'occasion de se trouver avec lui. Elle se manifeste en premier lieu à celui en qui elle s'opère, en lui donnant une profonde conviction de péché, surtout en l'amenant à voir sa corruption naturelle et cette coupable incrédulité qui l'entraînerait infailliblement à sa perte s'il n'obtenait miséricorde de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les découvertes qu'il fait dans son âme le pénètrent de douleur et de confusion. Mais la grâce lui révèle en même temps le Sauveur du monde et l'absolue nécessité de s'attacher à lui pour être sauvé. De là naissent en lui cette soif et cette faim de Christ qui lui permettent de s'appliquer la promesse de l'Écriture. Et, à proportion de la fermeté ou de la faiblesse de sa foi au Sauveur, il sent croître ou décroître sa joie et sa paix, son amour pour la sainteté, son désir de se rapprocher de Christ et de le mieux servir. Mais bien que cette œuvre de la grâce se manifeste ainsi en lui, il est rare qu'il réussisse à voir avec évidence qu'elle s'opère vraiment en lui, parce que sa corruption et son aveuglement l'empêchent souvent de juger sainement de son état. C'est pourquoi ce n'est qu'à l'aide d'une raison éclairée que celui en qui cette œuvre s'opère peut y discerner avec certitude l'œuvre de la grâce. En second lieu, son existence dans le cœur d'un homme se manifeste aux yeux des autres par les signes suivants. Premièrement, une profession sincère de foi en Christ. Deuxièmement, une vie conforme à cette profession, c'est-à-dire une vie de sainteté. L'homme qui vit sous l'influence de la grâce aura des affections saintes, des habitudes saintes dans sa famille, s'il en a une conduite sainte dans le monde. Il aura en haine le péché, et dans le secret de son cœur, il se détestera lui-même à cause de sa corruption. Il travaillera à combattre le péché dans sa famille et à répandre la sainteté dans le monde, non pas seulement par des paroles, comme le font les hypocrites et les grands parleurs, mais par une soumission pratique à la parole de Dieu, soumission qui prend sa source dans la foi et dans l'amour de Dieu. Et maintenant, monsieur, dites-moi si vous avez quelque objection à faire à ce cours exposé de l'œuvre de la grâce dans le cœur et de sa manifestation dans la conduite. Sinon, permettez-moi de vous faire une seconde question. Beau parleur, mon rôle est maintenant d'écouter et non de faire des objections. Vous pouvez continuer. Fidèle, je vous demanderai donc, votre expérience antérieure, votre vie et votre conduite témoignent-elles de l'action de la grâce dans votre âme? En d'autres termes, votre religion n'est-elle qu'en parole et en apparence, ou est-elle aussi en action et en vérité? Si vous êtes disposé à répondre à ma question, ne dites rien que ce que le Dieu du ciel sait être vrai. Sinon, rien aussi que votre conscience ne vous autorise à dire. Car ce n'est pas celui qui se loue soi-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur loue. D'ailleurs, vouloir se donner pour ce qu'on n'est pas, quand on est démenti par sa conduite et par tous ceux de qui l'on est connu, c'est faire preuve d'une grande perversité. Beau parleur parut un instant confus, mais il ne tarda pas à se remettre, et dit « Vous voilà parlant d'expérience, de conscience et de Dieu, et voulant appeler à lui de la vérité de chaque parole qu'on prononce. Je ne m'attendais vraiment pas à un entretien de ce genre, et je ne suis nullement disposé à répondre à de pareilles questions, car je ne vois pas le droit que vous avez de me les faire, à moins que vous ne vous croyiez appelé à me faire la leçon, et même dans ce cas, je ne suis point obligé de vous prendre pour juge. Mais, je vous en prie, veuillez me dire pourquoi vous me faites ces questions.
Fidèle.
D'abord parce que je vous ai vu si prompt à parler, et que j'ai entendu dire que toute votre piété est dans vos paroles, et que votre vie dément votre profession de foi. On dit que vous faites honte aux non-chrétiens, que votre mauvaise conduite fait grand tort à la religion, qu'elle a déjà été une occasion de chute pour plusieurs personnes, et qu'il est à craindre qu'elle n'en entraîne un grand nombre d'autres à leur perte. Votre religion s'allie très bien, dit-on, avec l'avarice, avec l'impureté, avec les jurements, avec le mensonge, avec l'ivrognerie, avec la fréquentation des mauvaises compagnies.
Beau-parleur, puisque vous êtes si prompt à croire tout ce qu'on vous dit et à juger témérairement de vos frères, j'en conclus que vous êtes un de ces hommes moraux et mécontents de tout, avec lesquels il ne sert à rien de raisonner. C'est pourquoi je vous souhaite le bonjour.
Chrétien s'approcha alors et dit à son compagnon de voyage, « Je vous ai bien dit que cela finirait ainsi. Vos discours heurtaient trop directement ses passions. Il a mieux aimé renoncer à votre société qu'à son mauvais train. Mais enfin, le voilà parti. Laissez-le aller. Nous n'y perdrons rien. Il nous a épargné la peine de nous éloigner de lui. C'est un de ces hommes dont l'apôtre dit « Sépare-toi de ces gens-là. »
Fidèle, je suis pourtant bien aise que nous ayons eu cette petite conversation avec lui. Il est possible qu'il y réfléchisse quelques jours. Quoi qu'il en soit, je lui ai parlé avec une grande franchise. S'il périt, je serai net de son sang.
Chrétien, vous avez eu raison de lui parler si franchement. Une telle fidélité est bien rare de nos jours. C'est parce qu'on en manque qu'on voit tant de scandales. Il y a un bon nombre de ces beaux parleurs dont la religion est tout en paroles, et dont la conduite est légère, déréglée, et qui, prenant place parmi les fidèles, et passant pour tels, induisent les mondains en erreur, déshonorent l'Évangile, et affligent les chrétiens sincères. Je voudrais qu'on en agît avec de tels gens comme vous venez de le faire. Il en résulterait que leur vie deviendrait conforme à la parole de Dieu, ou qu'ils s'éloigneraient des gens vraiment pieux. Ils continuèrent ensuite à s'entretenir de ce qu'ils avaient vu en chemin, en sorte qu'ils ne s'aperçurent guère des ennuis et des longueurs du voyage, qui, sans cela, leur aurait paru bien difficile à supporter, car ils traversaient un désert.